Balado, Cégep de Sainte-Foy. Animé par Denis Dubois. Produit par le Carrefour Conseil avec la collaboration de l'équipe psychosociale. Bienvenue dans La santé mentale décryptée. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission, ce balado spécial sur la santé mentale. Chaque émission, nous allons décrypter une portion, une bien maigre, bien humblement, la santé mentale. Et aujourd'hui, on passe cette émission avec Valérie Otton-Paquet, travailleuse sociale au Carrefour Conseil du Cégep de Sainte-Foy. Allô Valérie!
Allô Annie, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Valérie, aujourd'hui, on a choisi d'aborder un sujet, je dirais pas nécessairement particulier, mais à la fois peut-être un peu tabou et incompris plusieurs, c'est-à-dire toute la question du monde des personnes trans, la réalité des personnes trans, une réalité souvent méconnue ou incomprise. Donc, peut-être qu'on peut commencer un peu par quelques définitions pour nous aider à bien comprendre de quoi on parle.
Oui, excellente idée, Dani. En fait, souvent, on peut être un peu confus ou mélangé quand on entend l'acronyme là, qui est de plus en plus long avec les années, là, LGBTQ, et je vous en passe là, plusieurs. Je vais faire très rapidement des petites définitions, mais vraiment reliées ici aux personnes trans à l'identité de genre, pour être capable un peu de se comprendre là, pendant l'entrevue puis de démêler tout ça. Alors, une chose importante à comprendre, quand on parle d'identité sexuelle, ça, c'est vraiment les caractéristiques sexuelles biologiques là, qu'on nous a attribuées à la naissance. Alors, quand le petit bébé vient au monde, on met masculin au féminin. Moi, Valérie, je me définis comme étant, sur mon passeport, c'est écrit F pour féminin. Fait que ça va jusque-là, Denis?
Ça va très bien.
Merveilleux. L'identité de genre, c'est là qu'on commence à aller un peu ailleurs. C'est vraiment le genre auquel la personne, elle va s'identifier. Fait qu'on parle ici d'un sentiment qui est subjectif. Moi, je peux avoir le sexe féminin à la naissance, Valérie, puis pas me sentir femme. Je pourrais me sentir homme, je pourrais me sentir autre. Fait que dans le fond, quand on parle d'identité de genre, il faut vraiment retenir ici que c'est un sentiment qui est subjectif. Je vais aller un petit peu plus loin. On entend parler de transsexuel, transgenre, cisgenre, qu'est-ce que c'est que ça? Transsexuel, en fait, c'est un ancien terme. On pourrait dire qu'il est un petit peu dépassé, qui faisait plus référence aux troubles d'identité sexuelle. Mais tu sais, ici, là, ça a vraiment un peu... On parle plus maintenant de transgenre. Alors, quand on parle vraiment de transgenre, c'est que la personne, c'est que son identité de genre, comment elle se sent, c'est différent de ce qui a été attribué à la naissance. Exemple, Dani, t'es né masculin, mais finalement, non, toi finalement, tu vas t'identifier comme une personne, comme une fille. Alors, on parle à ce moment-là d'une personne transgenre. Pour aussi, pas trop vous mêler, dans le temps, on entendait parler de travesti. C'est quoi, c'est un travesti, le travesti? Bien, en fait, c'est plus une personne qui s'habille avec des vêtements comme pour se déguiser. Dans le fond, c'est comme si que je vais aller voir un spectacle de Dani qui est déguisée à Noël, au party de Noël en femme. Mais son identité de genre n'est pas pour autant affectée. C'est vraiment juste une idée de déguiser.
En fait, ça va jusque-là? Dans les travestis, bon, sans le savoir, ça peut arriver qu'il y ait un travesti qui le faisait, surtout à une époque où on ne pouvait pas sortir à cause d'une identité de genre. Mais un bon nombre d'entre eux le font pour le plaisir de s'habiller en femme, point, sans qu'il y ait une dysphorie de genre à ce moment-là.
Exactement. Comme des fois, on peut voir dans des résidences de personnes âgées, un éducateur spécialisé qui va se déguiser en femme pour animer, mais puis revient chez eux, puis il est tout à fait homme. Fait que oui, tu as tout à fait raison, Dani. Puis un autre terme aussi que je veux, qui est assez important à pas oublier, c'est le terme non-binaire. Bon, c'est quoi ça, non-binaire? En fait, c'est une personne qui s'identifie à aucun genre. Je ne me considère pas gars, je ne me considère pas fille, alors je suis non-binaire. Fait que vous voyez un peu, c'est un petit peu plus large. Puis là, je vous sors un dernier terme là, pour ne pas vous mêler, là, mais des fois, vous avez sûrement déjà entendu parler de cisgenre. C'est quoi ça, cisgenre? En fait, c'est que mon identité de genre, elle correspond à celle qu'on m'a donnée à la naissance. C'est que Valérie, je suis née femme et je me sens encore femme. Fait que l'instant là, ça va bien. Denis, probablement que c'est ton cas aussi. Je me permets cette
présomption.
Tout à fait.
Dans tout ça, là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est là, on parle d'une question d'identité, de comment je me sens. Donc, je suis un homme qui se sent homme, je suis une femme qui se sent femme, une femme qui se sent homme ou un homme qui se sent femme ou ni un ni l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle en bout de ligne. C'est pas...
Non.
Si un homme se sent appelé femme, en lui être une femme, c'est pas parce qu'il est attiré par les hommes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une distinction à faire là, entre l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle.
Oui, tu as tout à fait raison. C'est deux choses complètement différentes. Alors moi, Valérie, je m'identifie comme femme, je suis cisgenre et j'ai une orientation sexuelle hétérosexuelle. Alors je suis attirée vers les hommes. Je pourrais demain, peut-être pas demain, c'est un processus qui dure plusieurs mois, je pourrais décider de devenir un homme et mon orientation sexuelle, en fait, je serais toujours attirée vers les hommes. Mais là, à ce moment-là, c'est que je serais plus considérée comme hétérosexuelle. Parce que je deviendrais un homme attiré par les hommes, alors je deviendrais en fait, un trans qui est homosexuel. Ça va jusque-là?
Oui. Oui, ça va très bien. La question, dans le fond, par rapport à tout ça, c'est que pour plusieurs, même encore aujourd'hui, à tort ou à raison, tu sauras nous le dire, Valérie, les gens qui veulent devenir trans ou qui ne se sentent pas dans leur identité profonde, là, puis qui font un changement, c'est souvent vu par plusieurs comme une maladie. Comme une problématique. Est-ce que c'est vrai? Comment c'est perçu aujourd'hui par la psychologie moderne?
Oui, tout à fait. En fait, le terme qu'on peut appeler, en fait, qu'on peut attribuer, on parle ici de dysphorie de genre. Alors, pour les gens, là, mon anglais est pourri, là, je vous dis d'avance, c'est un petit manuel qu'on a en santé mentale qui s'appelle le DSM-5. Fait qu'il y avait le DSM-1 dans le temps, 2, je vous évite cette histoire-là, en fait. Puis, en anglais, c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Bon, ça va jusque-là. Et dans le DSM-5, en fait, on appelle ça un trouble de dysphorie de genre est identifié. Là, ici, il faut faire attention. C'est pas parce qu'une personne trans est trans qu'elle souffre de dysphorie de genre. Ça, c'est bien important. On peut voir des fois des gens qui sont vraiment, là, ils vont s'identifier comme étant pas du bon genre, vont faire un changement sans pour autant souffrir.
Okay. Donc, la dysphorie de genre n'est pas le fait de ne pas se sentir dans le bon corps, c'est d'autres choses. Donc, c'est pas la dysphorie, c'est pas le fait de ne pas se sentir dans la bonne identité qui est identifié dans le manuel des troubles mentaux comme étant un trouble mental, c'est autre chose que ça. Donc, les gens confondent peut-être rapidement, donc souvent, l'idée de la dysphorie de genre comme étant « Ah, quelqu'un qui veut changer de genre, c'est un malade. »
Oui, c'est intéressant, Dani, ce que tu apportes, parce que c'est pas automatique. En fait, la dysphorie de genre, là, faut vraiment voir une équation avec une souffrance. Alors, la personne... vraiment qui va se définir comme transgenre ou qui ne se sent pas en conformité avec son identité de genre va vraiment vivre une souffrance importante, il va avoir un déséquilibre. On parle ici d'altération du fonctionnement social, professionnel, détresse, anxiété, dépression, irritabilité. Là, je vous en parle, mais vraiment, c'est la souffrance qui est vécue intérieurement. On voit des symptômes graves qui arrivent. Parfois, on va avoir des étudiants ou des personnes qui vont s'automutiler, qui vont consommer plus de drogue, d'alcool, toutes sortes de moyens pour calmer cette souffrance-là.
Et ça, c'est des choses qui se replacent généralement plus la personne avance dans sa démarche de devenir ce qu'elle sent qu'elle est profondément. Donc, si moi, je sens que je suis une femme, je souffre de dysphorie de genre parce que je ne suis pas bien dans ce corps-là, et que je fais les démarches et que tout d'un coup, je deviens une femme, peu importe la grandeur du processus, la dysphorie de genre peut donc disparaître le jour où cette souffrance-là rattachée à mon malaise d'être un homme pourrait disparaître. Donc, on a quelque chose ici un peu, tu faisais allusion quand on a préparé l'émission un peu à l'homosexualité qui a déjà été vue comme une maladie mentale, mais qui n'est plus vue comme une maladie. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une identité, une orientation profonde que quelqu'un peut avoir dans son gène. Donc, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire. L'évolution de la compréhension du transgenre nous a amené à dissocier l'identité et la souffrance qui peut être rattachée à cette personne.
C'est un beau parallèle que tu fais, Dani, parce que oui, rappelez-vous, là, bon, peut-être qu'il y a des plus jeunes à l'écoute, mais on peut penser dans les années 80, 70, 60, même 90, une personne homosexuelle, parfois, hein, est un peu plus stigmatisée. Encore aujourd'hui, on voit des étudiants au cégep qui viennent de régions qui ont vécu beaucoup d'intimidation par rapport à leur orientation sexuelle au secondaire. Fait qu'on voit encore ça aujourd'hui, mais ça a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle quand on était jeune, tu sais, ma mère, elle disait « Oh mon Dieu, je connais quelqu'un qui est gay, tu sais. On pourrait peut-être les présenter. » Non. c'est pas une équation automatique. Fait que maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est sûr qu'une personne qui va nommer, qui se sent pas dans le bon corps, c'est un peu... des fois, les réactions sont un peu mitigées. Hein? On va avoir des parents, parfois, qui vont être dans le déni. « Ah non, c'est une passe. » C'est une passe, là, ça vraiment, là, ça durera pas longtemps. Puis, je reviens à cette période-là. En fait, là, la souffrance, là, il faut qu'elle ait une durée d'au moins 6 mois. Fait que je vais donner un exemple. Moi, là, Dani, quand je vais en voyage, là, que je vais en Tunisie, en Europe, là, il y a des fois que j'aimerais être un gars. Je trouve ça plus pratique. Je me sens moins suivie. Je me sens plus... Mais je souffre pas pour autant de dysphorie de genre. C'est comme une période que je fais ensemble que je serai un gars pour 2 semaines, là, pour mon voyage, puis après, je reviendrai chez nous, puis tout irait bien. Alors là, il faut au moins qu'il y ait 6 mois vraiment d'une durée d'une souffrance. Puis aussi, je vais juste ajouter dans les critères diagnostiques du DSM, je vais juste en nommer quelques-uns. Là. Il y a vraiment un désir marqué d'être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles primaires. Fait que des fois, là, vraiment, là, la personne n'est plus à l'aise avec ses seins, avec son pénis, avec vraiment, là, je veux me débarrasser de ça, c'est de trop, je suis pas bien avec ça. Un autre critère aussi, c'est un désir marqué d'avoir des caractéristiques sexuelles de l'autre sexe, de l'autre genre, et d'être traité aussi comme l'autre genre. Fait que si moi, je me promène Valérie, je suis pas bien dans mon identité de genre, puis j'aimerais donc bien qu'on m'appelle monsieur. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Et ça marque beaucoup l'esprit. Ça devient des préoccupations qui sont au quotidien.
On s'entend que ça prend un bon accompagnement par quelqu'un pour réussir à bien distinguer ce qui pourrait être une passe à quelque chose qui est plus profondément ancré. Quelque chose qui pourrait être une fuite de ma réalité. Tu sais, j'aimerais mieux être un monsieur parce que je ne suis pas bien dans ce que je suis, mais pas parce que je veux être une femme, par exemple. Donc, ça prend un accompagnement en profondeur pour bien marquer la distinction de ce qui pourrait être un et l'autre, puis m'amener sur un processus de guérison profonde dans cette souffrance-là que je vis à ce moment-là. Et je t'amène sur les autres points, ça va vite, mais l'émission avance vite quand même. On a quand même, les gens ne sentent pas le besoin d'aller aussi loin dans leur processus nécessairement pour se sentir bien et mettre fin à cette souffrance-là à l'intérieur d'eux.
Oui, bien en fait, juste pour rajouter, Dani, sur ce que tu dis, en fait, une personne qui va vouloir avoir une hormonothérapie pour vraiment avoir des caractéristiques biologiques sexuelles de l'autre sexe, va devoir avoir une lettre d'un travailleur social ou d'un psychologue qui est vraiment, là, je dirais pas, c'est pas une accréditation, mais qui est vraiment formé. Le but de cette lettre-là, en fait, c'est que le travailleur social ou le psychologue va rencontrer la personne environ 3 à 5 rencontres juste pour s'assurer que la décision est vraiment éclairée. Comme tu dis, là, c'est pas juste parce que j'ai d'autres souffrances puis je cherche quelque part une solution. Une fois que la personne a cette lettre-là, elle peut commencer vraiment une hormonothérapie. Et avec un endocrinologue, j'ai toujours la misère à dire ce mot-là, puis par la suite, tout un suivi.
Mais dans le continuum dont tu fais référence, là, il y a des gens qui commencent là, avec de l'hormonothérapie, mais chaque personne ne sent pas le même besoin d'entrer dans une hormonothérapie ou d'aller jusqu'à l'opération. Il y a vraiment des degrés différents qui vont satisfaire ou venir atténuer cette souffrance-là chez les gens.
Oui, tout à fait, Dani. En fait, moi, ce qui est intéressant parfois quand j'ai l'occasion de rencontrer des étudiants dans mon bureau qui ont ce questionnement-là ou cette décision-là, peu importe, ça va pas toujours aussi loin. Une personne peut tout simplement s'habiller d'une façon qu'elle désire, qu'elle va se sentir du sexe désiré. Ça, au moins, ça peut apporter déjà une satisfaction puis un apaisement de la souffrance. Une personne peut décider aussi de changer de prénom. soit au cégep, j'en parlerai à la fin de l'entrevue, ou encore à la direction d'état civil. Des fois, il y a des gens là, que juste de changer de prénom, ils sentent déjà mieux. Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin d'hormonothérapie puis qui a envie d'aller non plus vers une chirurgie. Des fois aussi, on a des étudiants qui, ben en fait, là, je veux dire maintenant, des étudiants qui, avec un binder, se sentent déjà mieux. Fait qu'un binder, c'est vraiment quelque chose qui va masquer les seins. Fait que déjà, là, je suis pas confortable avec mes seins, on les voit moins. Fait que c'est des fois, c'est des petites choses. Des fois, la personne a vraiment besoin de passer par une mastectomie, par une vaginoplastie.
Ce processus-là de changement d'identité qu'effectue la personne résulte à quel bienfait pour la personne?
Ah, mon Dieu! Dani, là, les bienfaits, là, sont... En tout cas, des étudiants que j'ai rencontrés depuis que je suis au cégep, là, les bienfaits sont vraiment majeurs parce qu'on voit vraiment, là, un changement au niveau des comportements, au niveau de la dépression. On voit moins d'automutilation. On sent vraiment, là, qu'il y a un poids qui s'enlève. Ça, là, les étudiants, des fois, on les voit, ils se tiennent plus... Des fois, je vois des étudiants qui rentrent les épaules courbées, là, comme des filles là, qui veulent cacher leurs seins. Là, tout d'un coup, les épaules sont droites, la personne se tient droit. Fait que, tu sais, il y a vraiment un changement. Puis, c'est une souffrance que j'imagine que quand on la vit, est très présente. Alors, de pouvoir tasser ça, ça fait du bien.
Mais tantôt, tu as parlé d'un accompagnement. Bon, un psychologue, un travailleur social, des fois, il y a des papiers à aller chercher ou quoi que ce soit. Mais j'imagine qu'il y a des facteurs de protection qui sont nécessaires. C'est très difficile pour une personne de traverser tout ça seule. C'est quoi ces facteurs de protection-là qu'on pourrait identifier pour les personnes qui traversent cette dysphorie de genre?
Oui, le facteur de protection, là, à mon avis, le plus important, là, c'est vraiment le support de l'entourage. À partir du moment où l'étudiant, la personne a le support, a vraiment là, nommé à sa famille, voici, c'est difficile pour, je vous dis, là, mettons que je m'appelle Valérie, de dire à ma mère, maman, je ne suis pas Valérie. Mais à partir de maintenant, je suis Dani. C'est quelque chose de majeur parce que parfois les parents vont réagir. Ben non, tu sais, on t'a donné un beau prénom, on t'aime. C'est difficile aussi pour les parents. Hein? Fait que l'étudiant, la personne, à partir du moment qu'elle a le soutien de ses amis, les amis, c'est toujours plus facile. Surtout au cégep, là, avoir le soutien des amis, c'est une étape qui est quand même plus facile. Mais en fait, les parents,
la famille, c'est
gros,
ça. La famille, les parents, c'est un choc. Le frère, la sœur qui a grandi avec toi à côté.
Ouais.
Oui. Il y a donc une importance, je vais aller vite là-dessus parce que le temps se fait court, l'importance d'être accompagné est vraiment nécessaire. Donc, si je suis étudiant au cégep présentement, je peux faire appel au service de consultation, aller sur le site du cégep, /ARV en ligne, prendre un rendez-vous et puis rencontrer un professionnel. Mais il y a plein d'autres services offerts au cégep. Valérie, je te laisse les énumérer rapidement pour nous permettre de bien les connaître.
Oui, en fait, l'importance de l'institution, nous, en tant que cégep, là, de pouvoir émettre comme message à l'étudiant, oui, tu es reconnu dans ce que tu vis, puis oui, on accorde une importance à ça. Alors, quelque chose qui est vraiment, là, les étudiants, là, vraiment, excuse-moi le terme, là, ils trippent là, quand ils apprennent que ça se fait. Un étudiant au cégep peut demander un changement de prénom, un changement de prénom comme un peu formule maison. Fait que même si le changement de prénom n'a pas été fait à la direction de l'État civil, il peut se faire à l'interne. C'est avec le cheminement scolaire. Fait que ça, en partant, là, l'étudiant qui arrive dans la classe, moi, Valérie, maintenant, je ressemble à Dani, puis le prof m'appelle encore Valérie, ça concorde pas. Les gens me regardent un peu bizarre, mais la journée que je choisis mon prénom puis que mon prof m'appelle Dani, là, ça fait du bien. Fait que ça, on a ce service-là qui est quand même assez important puis majeur.
Effectivement.
Un autre truc, bon, c'est sûr, les toilettes, on a des toilettes mixtes. Fait que des toilettes non genrées, déjà, ça enlève un gros malaise aussi. Puis, il faut pas oublier le comité ARCO et risques sociaux de la vie étudiante, vraiment un comité d'étudiants là, qui est chapeauté par un animateur. Fait que ça, c'est le fun de se retrouver avec des gens qui vivent un peu la même chose que nous. Fait que c'est ça, en gros, là, nos services.
Alors, ben écoute, merci Valérie. C'est une vulgarisation rapide. On n'a pas tout dit ce qu'il y aurait à dire. Bien sûr, on pourrait en parler pendant une heure ou deux, assurément, parce que il y a quelque chose de mystérieux. Peut-être qu'on pourra faire éventuellement une version 2 pour se permettre de creuser certains points encore plus, certains questionnements. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez nous écrire. Et j'invite tout le monde qui se pose des questions, qui a le goût de cheminer, ben restez pas seul avec ça. Vous pouvez vous présenter au Carrefour Conseil pour prendre rendez-vous ou, comme je le disais, aller sur le site service du Cégep de Sainte-Foy, /ARV en ligne, prendre un rendez-vous, venir rencontrer Valérie ou quelqu'un d'autre pour venir chercher l'aide nécessaire. Merci Valérie pour ce bref moment de vulgarisation de qu'est-ce que est la réalité d'une personne trans. Pour les autres, ben, suivez-nous, on aura d'autres balados régulièrement qui viendront sur d'autres sujets. Bonne semaine, tout
le monde. Merci beaucoup, Denis, de ce temps.